RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Farouk Kadimedic et Jonathan McCarthy. Je me rends quoi, parce que tu sais, on est synchro entre mais la télé et la radio. Et
j'étais ans parce que de merde, il te reste plus beaucoup des cheveux.
Bon, attends, ça va là encore, franchement. Tu sais quoi, à mon âge, mon père avait quasiment tout perdu déjà. Je m'en sors pas mal au niveau capillaire.
Très bien, très bien, franchement.
C'est bien, hein.
Il est gentil.
C'est jalousie des Jonathan.
C'est ça. Ça va juste avoir ma bobarde, toi, c'est ça le problème.
Non, merci.
Bon, arrête.
Pour avoir l'air d'un hipster comme
toi. Mais t'as que dalle, toi. C'est ton fantasme absolu que d'avoir ça, cette.
Ah, pas du tout, monsieur.
T'as jamais eu la barbe, toi, Farouk?
Non.
C'est vrai?
Non.
Quoi, jamais? Pourtant, c'était à la mode quand t'étais joueur.
C'est un type ancienne école.
Eh, tu l'as vu jouer? Ah, bah non, tu l'as jamais vu jouer, mais. T'as déjà vu des vidéos de Farouk ou pas?
Non.
Non.
Bah, c'est. Jérôme Thomas, notre producteur, grand connaisseur, nous dit que c'était magique. Mais allez le voir. Tu sais que c'est lui, grosse rosta Farouk Kadzibezic, du football non pas bosnien, ni bosniaque, mais yougoslave.
Yougoslave, bah oui.
Ah, attends, et Farouk, quoi. Grosse rosta, Farouk.
Merci,
c'est gentil. On te met bien, t'as vu, on est sympa.
Ah, mais très sympa. Je suis flatté.
Première affiche de la 35e journée de Ligue 1 et Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Montpellier. Saint-Etienne qui est 5e ce soir et on va aller retrouver Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse du côté de Montpellier, du côté de la Mosson. Jean-Louis Gasset.
Voilà leurs amis. Et mardi matin, on reprendra le boulot pour préparer le match de Bordeaux.
Allez, Jean-Louis Gasset en direct en conférence de presse à la Mosson.
Non, c'est pas de gagner ici, c'est de venir ici. Sans le patron, c'est la première fois que j'arrivais à la Mosson et que je savais que je le verrais pas. Donc ça fait tout bizarre. Voilà. Maintenant, je suis content que Laurent Nicolin réussisse sa première saison. On sait l'année dernière qu'on est passé par différentes étapes pour sauver. Donc cette année, Montpellier a eu 42 points très vite parce que c'était quand même une année exceptionnelle. En perdant Louis Nicolin, Montpellier perdait gros et il aurait pu y avoir un certain relâchement, mais le travail de Laurent a été très bon et l'équipe a les points pour bien finir.
Allez, Jean-Luc Gasset en direct en conférence de presse pour son retour à Montpellier victorieux avec l'AS Saint-Etienne, l'entraîneur des Verts.
J'aime pas parler d'un joueur. Quand je parle de bien défendre, Selnaes a bien défendu, mais les quatre de derrière et un Villa avec lui ont bien défendu. Yes. Les extérieurs se sont replacés contre un système à deux couloirs qui nous faisait reculer. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Il n'y a pas juste un joueur. J'aime pas sortir un joueur du lot.
Voilà, une réaction avec pas mal d'émotions de la part de Jean-Louis Gasset qui était de retour à Montpellier. Le patron, c'est bien sûr Lolou Nicolin. Hein, bien
c'est
entendu.
Normal. Hein. Ouais, c'est normal, il est à Nice. Enfin, c'est normal qu'il soit ému. Quoi.
Ouais. Et donc Montpellier qui s'est incliné 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. Montpellier qui est 8e à 6 points des Verts ce soir, à 6 points des places européennes. On va accueillir Julien, supporter de Montpellier, qui est en direct avec nous dans l'after et qui nous a appelé au 32-16. Salut Julien.
Salut à tous.
Salut Julien.
Bonsoir.
Donc je vous appelle, je suis un peu dépité là ce soir avec ce que j'ai vu. Il va falloir mener une enquête là, à savoir que Montpellier était en course plus que jamais pour les places européennes. Et depuis qu'on était dans les clous, je vois plus rien au niveau du jeu. Certes, ça défend bien, mais devant, c'est d'une tristesse infinie. Et même quand on a un petit coup de pouce avec un penalty tout à fait mérité, on n'arrive pas à le mettre au fond. Il est très très mal tiré. Et on paye l'absence aussi de
Aguilar
et Roussillon sur les côtés, qui fait beaucoup de mal. Mais c'est vrai, je me questionne à savoir. Alors, est-ce que c'est le cas ou pas? Est-ce qu'il y a de la part du club, à savoir est-ce qu'on a les épaules, on va dire, pour aller jouer une Coupe d'Europe? Mais depuis qu'on était plus que jamais en course, eh ben il y a plus rien et on dirait qu'on n'a pas envie de le prendre, ce ticket européen. Et je pense que ce soir c'est classé, à mon avis c'est réglé pour les places européennes et on jouera plus rien jusqu'à la fin de saison. Mais c'est vrai, c'est très décevant.
Julien, je suis vraiment déçu. Sois pas si triste, parce que bon, écoute, quand même, quand tu repenses au tout début de la saison, Avant de passer en défense à 5. On était beaucoup à penser que Montpellier allait vivre une saison galère. Au final, tu vis une saison avec un maintien qui est acquis de manière assez tranquille. T'as vécu quand même des belles soirées avec cette équipe-là. Donc je serais pas aussi dur que toi. Après, quand tu parles des problèmes offensifs, bah, t'as mis le doigt dessus. L'absence de tes deux latéraux qui sont hyper importants dans les phases de transition et offensivement, elle vous fait beaucoup de mal. Là, pendant la période où Montpellier faisait le siège du camp stéphanois, il y avait un manque c'était de créativité sur les côtés qui était assez flagrant. Aucun triangle, aucun jeu, aucune combinaison, aucun jeu à trois, ça passait d'une. Enfin, il y a eu beaucoup de centres aussi qui étaient très mal effectués. Donc vraiment, je pense qu'il vous manque beaucoup.
Oui, bah c'est exactement ça. C'est des attaques désordonnées. C'est un peu du n'importe quoi. Saint-Étienne n'a pas montré grand chose à mon sens et a même pas su concrétiser les quelques occasions qu'ils ont eues pour doubler la mise. Et puis nous devant, oui, c'est désordonné. On frappe un peu n'importe comment. Il y a le petit jeune Cosa là. Il est pas mauvais, mais on sentait que bon, il était un petit peu en manque de confiance et il a raté pas mal de centres.
Ah, et t'as péno avec lui.
Et puis oui. Après, provoque le pénalty, mais c'est quoi ce pénalty en bois, quoi? Une frappe de grand-mère en plein centre, n'importe quoi, quoi. Ouais. Sans déconner. Même moi, je l'aurais mis, je crois.
Oh, mais t'enflamme pas non plus.
Non, mais il y a deux points où je suis d'accord avec Julien, c'est au niveau d'exigence, parce que surtout dans le moment où quand on peut jouer à l'Europe, il faut jouer à fond des possibilités. Donc là, je suis d'accord avec Julien sur ce type d'exigence. Et sur le premier mi-temps de Montpellier, qui était plus que moyenne, techniquement, ça a été très juste, déchets techniques énormes. Et puis deuxième mi-temps, ça a été nettement mieux, c'était un petit peu plus offensif, et notamment avec l'entrée d'Issa Kembe-Meza. C'était nettement
même
mieux.
Même Kylian Doli était pas mauvais.
Effectivement, ouais. Ils sont fait meilleur deuxième mi-temps. Et puis, si Montpellier les réalise, dernière opportunité en première mi-temps, marquer les pénalties, je pense deuxième mi-temps, ça sera complètement différent.
Oui, moi je vais pas. Non mais attends, Julien. Moi je vais pas chercher des excuses, me faire l'avocat du diable. Mais c'est vrai que t'as quand même deux joueurs hyper importants qui manquent dans ce système-là en plus. Mais quand t'as pas ni Aguilar ni Roussillon, c'est quand même une autre histoire. On l'a senti leur absence cette saison aux deux.
Ils jouent quasiment dans un rôle de meneur de jeu excentré sur les phases offensives Montpellier-Rennes.
C'est ça.
Et pendant la période obsidionale de Montpellier,
c'est quoi ce mot là?
La période pendant la période de siège, voilà. Pendant la période de siège de Montpellier, tu te rends compte que vraiment, c'est un terme militaire, ça va, désolé. Tu te rends compte que vraiment, il manque un créateur, t'as aucune personne pour organiser le jeu. Ils avaient beaucoup de contrôle en deuxième mi-temps, ils avaient beaucoup de contrôle, ils étaient bons à la récupération, ils arrivaient vite à aller dans le camp adverse. Mais l'avant-dernière passe que doit faire, un vrai créateur, ça manquait terriblement.
Oui.
Non, c'est sûr. Bien sûr. Après, maintenant, ce qui est un peu dommageable pour nous, c'est que voilà, on va faire une fin de saison un peu en roue libre où on joue plus grand chose. Après, mathématiquement, on est encore, on va dire, dans les clous, mais je pense
mais
pas
non,
que les équipes
non,
devant
Julien,
nous.
C'est fini.
Oui, c'est fini, je pense. Mais t'auras quand même une saison sympa.
Julien, il va aller à Nantes, il va recevoir 3 et il va terminer à Rennes. Voilà, ce qui est du calendrier de fin de saison.
Mais je le trouve dur, Julien, je te trouve dur parce que ta saison elle est quand même sympa.
Bah, il est amer, je pense. Il se disait qu'il allait peut-être accrocher l'Europe. Là, c'était le match important. Et en plus, c'est vrai que ça va être relou quand t'es supporter de Montpellier, tu rates un péno et tout. Là, c'est compliqué, quoi. Ouais, Julien.
Voilà.
Ouais, garde la pêche, mon gars. Ça, tu nous appelles d'où en plus?
Pas de problème.
Tu nous appelles d'où, Julien?
De Nîmes.
Moi, j'habite à Marseille.
En plus, t'as le soleil et tout, mon gars.
Ouais.
Oh,
C'est vrai que niveau ambiance entre hier, c'était pas tout à fait la même.
On aurait dû ramener quelques-uns à la motion, par contre, ça aurait fait du bien au stade.
Ouais, c'est ça, exactement.
Bonne soirée, Julien.
Salut.
Merci.
Bonne soirée également. À plus tard.
Ciao, Julien. C'est gentil. Merci. Tiens, on termine sur ce match entre Montpellier et Saint-Etienne avec Hervé, supporter des Verts. Salut, Hervé.
Salut Nico, salut Jonathan et salut Monsieur Dimagic.
Salut, bonsoir, salut. Merci.
Salut, ouais, j'ai réussi à le passer, c'est bon.
Pourquoi, c'était quoi l'histoire?
Non, Dimagic, je craignais un petit peu.
Appelle Farouk, dis Farouk.
Oui, voilà, Farouk.
Dimagic, t'as vu, je le dis bien.
Oui, tout à fait.
Moi, je l'ai bossé.
Vas-y.
Bon, ton avis, Hervé?
Eh bien, mon avis, c'est que depuis quelque temps, je le dis rarement, mais ce soir, forcé de le dire, on mérite pas grand-chose sur ce match-là, parce que après l'ouverture du score, on pouvait penser que Saint-Étienne était un petit peu en maîtrise, on va dire, de l'avantage pris au score, un petit peu tout en contrôle, sans se, voilà, sans trop de stress, etc. Mais en fait, la deuxième temps, on a vite compris que ce soir, les Stéphanois avaient du mal à exister avec Rémi Cabella qui, outre les deux face-à-face qu'il loupe, a très très peu pesé sur le jeu.
Ouais, c'est clair.
Voilà, Yann Mvila, pareil. Alors, Selnaes a été beaucoup plus dans le combat sur les deuxièmes ballons. Mais Mvila, pareil, a pas été à son avantage. Il y avait un garçon, Gabriel Silva, qui depuis quelques matchs, arrivait à prendre son couloir régulièrement. Là, il a été très gêné et on l'a vu qu'une ou deux fois, finalement, dans le camp montpelliérain. Ruffier, bon, au final, qui sort le péno et puis une grosse frappe aussi en deuxième mi-temps. Donc, on peut pas dire non plus qu'on a pris un gros, gros bouillon. Ils ont centré énormément de fois, mais c'est resté stérile. Par contre, ce qui est bon pour nous, c'est que ça fait trois matchs qu'on a un petit peu perdu, je dirais, qui a fait notre force, ce côté un petit peu panache, ce côté un petit peu fraîcheur.
Mais tu les gagnes.
Mais par contre, voilà, ça fait trois victoires.
Mais Hervé, ce qui est super important dans la situation de Saint-Étienne, tu te prends dans son meilleur moment, tu sors quand même d'une phase de trois matchs gagnés, c'est positif. Et contre Montpellier, tu fais pas match exceptionnel, mais ton équipe, elle défend parfaitement bien, collectivement, sans faire match exceptionnel. Ouais. On peut pas dire que la victoire, elle est pas méritée.
Non,
mais... S'il y avait un match nul, on pouvait pas créer au scandale, mais match, il est pas volé, donc plutôt restons positifs parce que quand même Saint-Etienne, on a besoin à Saint-Etienne de mieux classé.
Mais c'est vrai que dans le contenu c'est moins bien. Il est quand même lucide.
Il a raison, Hervé. Mais j'aimerais souligner
dans ce qu'il dit.
Hervé, je sais que ça va lui faire plaisir, mais Selnaes en seconde période pendant la période de siège de Montpellier, il était igné. Il a tous les seconds ballons, il a récupéré.
Il a contré énormément.
J'aimerais bien savoir combien de ballons il a récupéré d'ailleurs.
C'est vrai, voilà, on en parle souvent, Jonathan, de Selnaes.
Moi, j'adore, tu sais, mais...
Ah, ben, moi aussi, pareil. Et donc, c'est vrai que, par contre, je reprends ce qu'a dit Farouk. C'est vrai que, défensivement, par contre, c'est ce qu'on s'est dit, une fois n'est pas coutume, j'ai quitté le chaudron pour aller les voir à la Mosson. Et du coup, j'étais avec un pote, Marc, que je salue.
Ah, bah oui, Marc.
Voilà. Mais c'est vrai que ce qu'on s'est dit, c'est que, défensivement parlant, par contre, pour le coup, on était un petit peu plus, guerrier, etc. Et défensivement, voilà, on a fait...
Trois buts encaissés sur les sept derniers matchs par Saint-Etienne. C'est pas mal, hein.
Voilà, ça aussi, c'est quelque chose qu'on avait besoin de corriger complètement. Ouais. On va peut-être arriver à une différence de buts positive alors qu'on était à moins 16 ou 17 à la trêve. Donc ouais, effectivement, ce soir, le côté vraiment positif, c'est la défense de fer. Et en plus, en ayant vu Ruffier briller, on va dire, deux fois.
Hervé, il avait beaucoup solidarité dans le jeu, collectivement parlant, si tu veux. Après, chacun, il fait ce qu'il peut sur un match comme ça. Et puis, je voulais juste dire le rôle d'importance de Mvila, elle est exceptionnelle.
Ouais,
parce que
c'est vrai qu'il revient bien, lui aussi.
Hein. Il y a quelques coachs et coéquipiers qui peuvent juger son rendement sur le terrain, qui est super précieux.
Ah oui, en plus, lui aussi se positionnait quand même un petit peu aux quatre coins du terrain. Il a, voilà, après... Alors je suis peut-être un petit peu dur avec eux ce soir parce qu'ils nous avaient habitués à beaucoup mieux. Mais après, effectivement, je suis le premier à le dire habituellement. Faut pas oublier d'où on vient. Mais par contre, c'est vrai qu'on a senti, et je l'avais dit déjà la semaine dernière, on sent le côté un petit peu terre de cette équipe qui se révèle. Ils ont pas lâché le morceau ce soir parce que même si, encore une fois, ils ont pas été mis sur le reculoir, il y a eu beaucoup de centres, etc. Mais voilà, il y a toujours eu un joueur qui a su se jeter pour contrer un tir. Théophile Catherine nous a fait 2-3 sauvetages en fin de match également pour couper des longues balles qui nous ont fait du bien. Donc ouais, effectivement, collectivement parlant et défensivement parlant, ce soir, allez, je vous rejoins, Farouk, et on mérite la victoire. Voilà, c'est vous qui l'avez dit.
Eh ben merci, merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous les gars.
À bientôt, Hervé. Bonne soirée.
Salut, à bientôt.
Ciao.
Il va bientôt venir d'ailleurs, Hervé, je crois.
Ah bon?
Tu sais, c'est lui qui cuisine les rats.
Ah, c'est lui.
Que les gens doivent manger. Ouais, c'est le cuisinier.
C'est bon. T'as déjà mangé du rat ou pas, toi?
Jamais,
Farouk.
Mais je vais jamais manger, hein. Arrêtez-vous.
Tu sais, par exemple, en Amérique du Sud, ils mangent des cochons d'Inde, par exemple. Tu sais, en Pérou, tout ça, non, c'est là-bas.
Oui, en Asado.
Voilà.
Mais c'est pas mauvais, forcément.
T'as déjà goûté, toi?
Ouais.
C'est bon?
Je respecte.
C'est un peu filandreux.
Moi, j'aime tellement la viande, je boufferais n'importe quoi.
Quand on m'a dit c'est des protéines maigres, j'ai dit vas-y, allez, on voit.
Las proteínas magras. Victoire de Saint-Etienne, donc ce soir 1-0 à Montpellier, première affiche de la 35e journée de Ligue 1. Saint-Etienne qui est 5e au classement, Montpellier qui est à 6 points et qui est 8e. Dans quelques instants, on va revenir sur l'officialisation du départ d'Unai Emery. C'est lui-même qui l'a annoncé en conférence de presse, supporter du Paris Saint-Germain. Quelle trace Unai Emery va-t-il laisser? Êtes-vous soulagé? Êtes-vous triste de le voir partir? On vous attend avec Farouk Azibézid chez Jonathan Macardi au 32-16. À tout de suite.
RMC, le super football show, l'afterfoot, Nicolas Villas.
Et Jonathan Macardi et Farouk Azibézid chez vous sur l'hashtag RMC Live et au 32-16 bien entendu. Tiens, il y a quelques instants, on discutait de plats culinaires un petit peu chelous. Alors on était avec Hervé, donc il avait cuisiné le fameux rat qu'avait mangé Eric Dimeco après son pari perdu. Vous savez, il y a quelques années, Eric avait parié que si jamais Azpilicueta allait en équipe nationale, eh bien il mangerait un rat. Eh bien il l'a fait puisque Aspi a été appelé en équipe nationale. Et là tiens, on a une réaction de Pierre sur l'hashtag RMC Live qui nous dit: en Colombie, on mange du couï et ça se fait au four. Alors le couï, c'est le cochon d'Inde justement. On appelle ça comme ça en Amérique du Sud.
Mais c'est pas mauvais hein. Moi, je l'ai mangé en asado.
Mais du coup, il est c'est bien couï alors. Faut le manger bien couï. Ce soir, Montpellier s'est incliné à domicile 1-0 face à l'AS Saint-Etienne. Première affiche de la 35e journée de Ligue 1. Saint-Etienne est 5e avec 6 points d'avance sur Montpellier. Saint-Etienne qui a surtout 2 points d'avance sur Nice. Nice qui jouera ce week-end. Et puis alors, c'est l'officialisation de la journée. Ça y est, c'est donc officiel. Unai Emery va quitter le Paris Saint-Germain à l'issue de la saison. Loïc Braillet a assisté à la conf de presse du technicien espagnol qui a annoncé son départ du club. Unai Emery.
Les communiqués à les joueurs que nous avons fait une réunion, le président est entéré, et que nous avons décidé de ne pas continuer ensemble la prochaine saison. J'ai aussi, je les remercie à les présidents, je les remercie à entéré, à les clubs, je les remercie aussi à les joueurs, et je les remercie à tous les supporters, et aussi à vous, pour l'aider à que j'ai passé ici. Et aussi pour le travail que nous avons fait ensemble.
Franchement, moi je vais le regretter quand même, Unai Emery. Le mec il parle avec la classe, voilà, il est pas amer, il est pas voilà, il en veut à personne, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait bon mec, moi, Unai Emery quand même. Bah, il est quand même cool, il part avec il part bien quoi, tu vois.
Je sais pas si c'est très urbain ce qu'il a fait.
C'est-à-dire
d'annoncer son départ avant que le club ne communique dessus.
Bah, ils ont communiqué juste derrière.
Oui, juste
mais
derrière.
C'était calculé.
Mais c'était calculé.
Je pense que tu veux que je te dise, je pense que le club a voulu faire les choses bien et lui ont dit on te laisse annoncer le départ et derrière on enchaîne
avec ça. Lui-même il dit qu'il a discuté avec président et avec oui. Directeur sportif.
Okay, donc dans ce cas-là, no comment. Mais oui, écoute, bah après, la seule chose.
Et
vraiment...
c'était une volonté, hein, Loïc Braillet, info de Loïc Braillet, okay. C'était une volonté de la part de Unai Emery d'annoncer lui-même son départ du club. Donc c'était vraiment calculé, c'était pas.
Le seul regret que j'aurais eu avec lui, c'est qu'il ait continué à vouloir parler français, quoi, parce que c'est très dur à comprendre.
Ouais, c'est vrai que.
Je pense que ça a brouillé son image.
Mais on comprend pas très bien.
Ça a brouillé son image, parce que je suis sûr qu'il aurait eu des choses très intéressantes à dire, mais que d'un point de vue linguistique, ça l'a limité dans l'expression.
Toi, tu dis,
moi j'apprécie l'effort qui est fait pour parler français. Il est pareil aussi, mais bon, j'apprécie l'effort. Après, je pense qu'il a fait honneur à un métier d'entraîneur. Il était complètement professionnel des premiers jours jusqu'au dernier jour. Dans le moment difficile, il n'a jamais piqué la crise, critiqué qui que ce soit. Il assumait complètement. Il est arrivé au bout de son contrat, donc il se sépare dans bonnes conditions avec les clubs. Bravo à lui, bravo au club pour le comportement. Après, sportivement, il est pareil aussi, il est pas fait
mieux. Voilà. Alors c'est là où j'allais venir. Là, il y a le côté humain. On se dit bon bah, il va peut-être nous manquer humainement. Unai Emery, on vous pose la question. Supporter du PSG, pas que supporter du PSG d'ailleurs. Est-ce que vous allez le regretter? Est-ce que vous êtes soulagé? Quelle trace va laisser Unai Emery au Paris Saint-Germain et dans le football français? Quel bilan tirez-vous de l'ère Unai Emery? Voilà ce qu'il en dit, lui, l'intéressé, de son bilan au Paris Saint-Germain.
C'est une chose importante que nous avons perdu, mais comme il s'a démontré, c'est l'équipe peut-être qui maintenant c'est le plus fort dans Europe. Et c'est pour ça que j'ai parlé beaucoup avec le président, avec Antero, de cette patience, de cette chemin dans la champion avec un processus, et que l'équipe petit à petit, et les joueurs aussi, il a passé autre des années avec ce processus, et qu'il est mieux préparé pour la prochaine Champions League.
Voilà, Unai Emery qui a dressé son bilan. Juste, je vous lis le fameux communiqué de presse du Paris Saint-Germain. Sous sa direction, je cite, hein, le Paris Saint-Germain est demeuré le club le plus compétitif du football français, avec plusieurs records à la clé sur la scène nationale. Ils insistent bien, oui, hein, quand même dans le communiqué, qu'Unai Emery a été performant sur la scène nationale, encore qu'il n'a pas été champion la saison dernière, mais qu'au niveau international, c'est là qu'on l'attendait, ça n'a pas forcément été le cas.
Écoute, quand on regarde la saison du PSG sur le terrain domestique, elle est exceptionnelle. Je pense qu'en termes de points, en termes de nombre de buts marqués, en termes de victoires et en termes d'écraser la concurrence, c'est assez impressionnant ce qu'ils font. Dans le jeu même, on s'est quand même régalé à voir le PSG jouer en Ligue 1. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Après, le problème que j'ai avec le bilan d'Unai Emery, c'est que j'ai l'impression que, d'une part, ça sera quand même l'homme de la remontada. Il a enchaîné les échecs successifs sur les deux saisons en Ligue des Champions, là où on l'attendait. Et j'ai le goût amer, en fait, j'ai l'impression un petit peu amer de n'avoir jamais vraiment vu le vrai Unai Emery à Paris, au final. Parce que quand il arrive, on était tous fans de son travail, de son système de jeu en 4-2-3-1, un jeu beaucoup plus vertical, avec beaucoup moins de possession un peu stérile, beaucoup moins de passes latérales, beaucoup plus direct. Et puis, on sait qu'il a voulu le mettre en place au début. On s'attendait à avoir donc le 4-2-3-1 avec un vrai meneur de jeu. Tout le monde salivait un petit peu à l'idée de voir Pastore à se jouer derrière Cavani. Et au final, sous la pression des joueurs, il est revenu au système de Laurent Blanc, 4-3-3. Ça a ronronné un petit peu la première saison. Finalement, là, ça va mieux parce qu'il a quand même eu du matos en plus. Mais vraiment, j'ai l'impression que voilà, le doute qu'on avait sur Unai Emery au moment où il signe au PSG, c'était de dire... excellent tacticien, mais est-ce que c'est un homme qui est capable de s'imposer dans un grand club avec des gros égos?
On a eu la réponse. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Bravo pour attitude tout au long de ces trois ans de contrat, dans le moment difficile, dans la communication, on est fort de parler français. Après, personnellement, je me suis régalé beaucoup plus avec Laurent Blanc, qui me régalait tous les week-ends quand je regardais PSG. L'année passée, il n'était pas champion, donc je ne sais pas où il était meilleur que Laurent Blanc. Ça en fait le process à qui que soit. Sur le plan international, on n'a pas vu PSG progresser, monter à l'étage. Après, on s'est fait éliminer par Barcelone, Real Madrid. Donc,
Il n'a pas eu de bol au tirage, on va dire. Ouais.
Voilà. Surtout la manière, quand tu gagnes domicile.
Bah, surtout la remontada.
Il y a un truc, je pense que la faute, elle est un petit peu partagée. Parce qu'en fait, quel est le problème du PSG d'Unai Emery?
C'est que c'est un PSG qui est sur le fauteuil.
Non, c'est un PSG qui n'aime pas être bousculé. Je trouve que c'est une équipe qui est faible mentalement. Faut dire les choses comme elles sont. Preuve en est à Barcelone, preuve en est au retour contre le Real Madrid. Et je pense que c'est d'une part Unai Emery qui a pas su imposer ses idées, qui a pas su les poser sur la table pour parler vulgairement et dire voilà, ça va être comme ça et pas autrement. Et de l'autre côté, on peut pas oublier non plus que la gouvernance de ce club, c'est quand même assez flou. Et quand t'es pas soutenu, parce qu'on sait les rapports qu'il a avec Antero Henrique, quand t'es pas vraiment soutenu par ton directeur sportif et que t'as un président qui est, il me semble, un très mauvais président de club, je parle de Nasser Al-Khelaifi, je suis quand même, voilà, je pense que la faute est partagée. Et je vais même un peu plus loin, j'aurais aimé le voir faire une troisième saison, mais avec une vraie gouvernance. Mais la première personne à sauter, ça aurait pas dû être lui, ça aurait dû être Nasser. Et Nasser, j'espère qu'il va sauter.
Parce que Farouk, tu parlais de Laurent Blanc, je vous donne juste quelques stats. Alors on l'a vu défiler sur BFM Sport il y a quelques instants. Il va peut-être remporter son septième trophée. On a aimé avec le Paris Saint-Germain s'il remporte la Coupe de France face aux Herbiers, ce qui est pas mal quand même. Il est arrivé en 2016 Unai Emery, mais surtout ce qui est intéressant, c'est son pourcentage de victoire. Il a 78,5% de victoire.
C'est magnifique.
C'est le plus fort total de l'histoire des entraîneurs du Paris Saint-Germain. Unai Emery, au niveau des stats, alors certes, c'est des compétitions nationales, pour l'instant dans l'ère qatari, il y a eu que des victoires dans les compétitions nationales. Il est pas mal Unai Emery.
Ouais, mais il est fait résultat magnifique. C'est difficile à comparer chaque fois pour être
et juste. Pourtant, il a pas été champion l'année dernière, hein, voilà. C'est bien. Ouais.
C'est difficile, c'est record, l'effectif est différent et ainsi de suite. Personnellement, je préférais l'année passée où il avait donné domination sur le plan national, tous les trois compétitions. Au Champions League, on n'était pas si mal que ça. On arrive jusqu'au quart de finale. Cette année, on a Neymar dans le vestiaire. Et je pense que le plus grand problème de Emery, ça a été, on a critiqué beaucoup Ibrahimovic, mais ça a été vrai patron dans le vestiaire et sur le terrain, dans la sens compétiteur. Aujourd'hui, on n'a pas sûr. Ça. On n'a pas ça. Quelqu'un qui va bouger les mecs.
Tu sais qu'il l'a dit, Unai, quand il a expliqué son bilan, il a dit que ça avait été difficile de remplacer Zlatan, justement.
C'est une équipe qui, il n'y a pas vraiment de capitaine, quoi. Il n'y a pas vraiment de leader naturel, alors, je sais que à chaque fois on va dire que je tape sur Thiago Silva, mais c'est pas non plus, il me semble, un capitaine naturel. T'as pas devant Cavani, c'est un leader par l'exemple, mais voilà. Mota a pas été là toute la saison, ça aurait pu être le capitaine de cette équipe là, mais il est encore en fin de pièce.
On l'achète pas, on n'apprend pas, c'est tout là ou tout là pas par l'intérieur.
Ouais, bien sûr.
On accueille Damien, supporter du PSG, qui nous appelait au 32-16. Salut Damien.
Bonsoir à l'after, bonsoir à tous.
Bienvenue à l'after, Damien. Alors Damien, est-ce qu'il va te manquer toi, Unai Emery? Quel bilan tu dresses de son passage au Paris Saint-Germain au final?
Alors, je vais être d'accord avec Jonathan, il va me laisser un goût amer, moi, Unai Emery. Parce que il a montré des choses intéressantes au niveau du jeu. Il a montré de vraies choses, des phases de transition vers l'avant qui étaient beaucoup plus intéressantes que ce que pouvait proposer Laurent Blanc. Je me suis beaucoup moins ennuyé avec Unai Emery à regarder le PSG qu'avec Laurent Blanc, concrètement. Maintenant, pour moi, là où on l'attendait, c'était sur le côté meneur d'homme, et là, il s'est complètement foiré. Pour moi, il a tout foiré. Il aurait dû installer Pastore en 10, et puis pas changer. L'année dernière, certes, il a eu la malchance de tomber sur un Monaco exceptionnel, et du coup, les joueurs, on met en cause le système de jeu, mais c'était pas forcément ça.
Non, c'est clair.
C'était pas du tout ça pour moi. C'est juste qu'il y a eu un Monaco exceptionnel l'année dernière. Mais on a fait encore une très grosse saison l'année dernière.
Et le mercato d'été, rappelle-toi, qui a été un petit peu raté. Et pas forcément
ouais,
de sa faute.
Non, mais ça. Mais après, voilà, pour moi, les choix de joueurs, tout ça, depuis que Leonardo est parti, on repart sur un projet à la Manchester City. Et ça se ressent dans les résultats européens. Tout simplement, on perd du temps en ce moment. Et j'ai peur que ça continue ainsi, parce que la gouvernance, comme tu l'as dit, c'est pas Unai Emery.
C'est Nasser. C'est même plus que Nasser, ça se joue à deux fins. Le problème du PSG actuellement, on l'a souvent dit et répété ces dernières semaines, en ce moment, le problème du PSG, c'est qu'on sait pas qui commande, on sait pas d'où viennent les décisions, on sait qu'en interne, il y a des guerres aussi, c'est compliqué à l'intérieur.
Il faut quelqu'un pour structurer ce club, en fait.
Mais en fait, on l'avait, la personne. Le club, structuré, c'était Leonardo. Leonardo, il avait structuré le club, il est parti. Et le club s'est déstructuré. Et là, on parle de Thomas Tuchel pour remplacer Emery. Mais c'est dans la lignée de Blanc, c'est dans la lignée d'Emery. On ne sait pas si ça va être un meneur d'homme. Ça se trouve, ça va exploser complètement.
Damien, il a quand même du caractère. Hein.
Ouais, c'est ce qu'on disait d'Unai quand il arrive.
Il s'est barré de Dortmund à cause de l'incident.
Paris Saint-Germain. Ah bah si, on disait qu'il avait du caractère
aussi. Si j'ai bien compris, Damien, je suis d'accord avec lui sur le choix des nouveaux coachs. J'ai rien contre Gasson, voilà, je le connais. Je l'ai jamais vu dans ma vie. À par rapport de quels critères on le choisit pour dire voilà c'est lui qui va nous faire progresser l'équipe. Unai, quand il est arrivé, il a gagné 3 Coupes d'Europe. Ouais. Il avait quelque chose sur quoi on peut s'accrocher. Donc, nouveau qui arrive, sous le conseil d'ambassadeur de Qatar en Allemagne, qui avait un pote avec lui, c'est ça?
C'est Xavi aussi qui a soufflé son nom. Apparemment.
Oui, mais. Ah, mais c'est ça, c'est des influences du Qatar. Le PSG, c'est pas le Qatar. Le PSG, pas Manchester City. Mais c'est pas Manchester City. Tant que les Qatar. Je pensais qu'il l'avait compris au début.
Mais Damien, les Qataris, ils sont aussi besoin d'apprendre. Ils savent pas diriger peut-être sportivement un club. Donc, ils ont aussi besoin d'acquérir l'expérience.
Et ils ont besoin de faire des conneries pour apprendre aussi.
Effectivement, c'est ça ce que
je veux dire. Mais je suis pas, tu vois, il y a quand même une différence de perception entre l'image qu'on pouvait avoir d'Unai Emery quand il arrive au PSG et celle de Tuchel quand même.
Oui, je te dise un truc.
Il avait une certaine logique.
Non, et même, il y a un élément qui est totalement objectif. C'est que la perception que tu vas avoir de Tuchel aujourd'hui, elle est aussi conditionnée par l'image que tu as d'Emery. C'est-à-dire, Tuchel succède à Unai Emery qui est un entraîneur étranger. Unai Emery succédait à Laurent Blanc, dont on disait que l'équipe ronronnait, qu'elle était pas géniale, qu'il y avait pas d'évolution. Ce qui était d'ailleurs peut-être vrai à ce moment-là. Mais ça joue beaucoup aussi.
L'image de Tuchel qu'on a, c'est quoi? C'est un mec qui a fait super bien jouer Dortmund avec une équipe avec pas mal de jeunes, qu'il a fait sortir quand même pas mal de jeunes là-bas. Et c'est un mec qui est intransigeant, qui s'est barré de Dortmund parce qu'il a pas accepté que ses dirigeants fassent jouer le match contre Monaco après l'attentat. C'est un mec qui a des idées bien trempées, qui à mon avis rigole pas des masses, tandis que Unai Emery, justement, j'avais l'impression quand il arrivait qu'il avait cette image d'un petit peu de grand frère, d'entraîneur assez proche de ses joueurs. C'est ça l'image que on pouvait avoir d'Emery. Et surtout qu'il y avait quelques, je dirais pas casserole, mais qui avait quand même eu du mal avec dans des contextes un petit peu compliqués comme c'était le cas en Russie, même si là le contexte est très très compliqué.
Ouais, c'était différent. Merci Damien en tout cas d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Bonne soirée. Salut, Damien, à très bientôt. Ouais. Salut. Ciao Damien. Tiens, je vous propose d'écouter Unai Emery qui se propose d'aider déjà à aider son successeur.
C'est un chic type alors.
Bah ouais, c'est un bon gars, Unai Emery. Quand on lui pose la question sur son successeur, voilà ce qu'il répond, Unai.
Sûr que le prochain temps, il est avec l'expérience. Sûr que s'il a besoin de quelque chose de moi, je peux aider à lui pour dire mon opinion. Le coach qui va venir, sûr qu'il va voir que c'est un grand club avec grands joueurs, avec grandes possibilités pour faire des choses importantes.
Voilà, merveilleux. En gros, si mon successeur a besoin d'aide, il peut m'appeler, je suis là pour l'aider.
Ouais.
Mais c'est... il est politiquement correct, il est dans la correction comme il était tout
à l'heure. Pourquoi c'est pas sincère d'après toi?
Mais il est sincère, mais il va jamais le faire parce que ça se fait pas.
Oui,
ça se fait pas.
C'est vrai, ça arrive jamais, ça.
Mais les meilleures choses qu'on peut faire, une fois quand tu es limogé, tout part. Tout part.
Sauf mais toi, t'as jamais appelé un mec à qui t'as succédé, par exemple?
Non, ou... si le mec, il appelle, à ce moment-là, là, oui. On peut répondre, donner notre avis s'il nous demande. Mais il faut pas maintenant donner, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça.
Ouais, ouais. Mais là, le PSG cet été, je pense que le mercato estival va être un moment important. Il y a plusieurs chantiers qui me semblent assez chauds. En défense centrale, va falloir peut-être se décider à recruter un vrai leader.
J'ai dit n'importe quoi.
Non. au milieu de terrain, va falloir se décider de savoir ce qu'on fait avec Marco Verratti qui stagne et qui a un comportement parfois un petit peu indigent justement,
voilà,
du point de vue de la discipline. Il y a le dossier d'Edinson Cavani, on sait pas trop ce qu'il va devenir, alors que pour moi c'est le meilleur numéro 9 du championnat de France et un des 5 meilleurs numéro 9 au monde. Et voilà, il y a quand même des points chauds. Alors autant l'été dernier c'était assez lisible ce qu'ils ont fait, ils ont pris une star et la star en devenir, très bien. Maintenant, faut penser à construire autour, parce que t'as quand même eu des manques en termes d'effectifs dans la rotation, notamment au milieu de terrain. Si tu veux jouer sur tous les tableaux l'an prochain, va falloir vraiment pas se planter.
On va accueillir Mehdi, autre supporter du PSG qui est avec nous en direct. Salut Mehdi.
Salut tout le monde.
Bienvenue dans l'after. Salut Mehdi.
Petite rectification, je suis supporter de l'OM.
Ah ouais, bah ouais, parce que je vois. Alors, je vais pas te mentir, Mehdi. J'arrive à lire le nom, mais l'écran est rose. Tu sais, il y a un espèce de film rose.
Bah, c'est notre ami malade.
J'aime bien les films comme ça, moi. Les
non,
films
je te jure, film rose. Donc effectivement, mais PSG Marseille, c'est pareil, tout ça. Putain, sans déconner, Mehdi. Là.
Ah bon.
Ouais.
Ah bon. Ça a gagné des coupes d'Europe, tout ça. Voilà, ben.
On en a gagné.
C'est une coupe d'Europe, la coupe des vainqueurs de coupe, t'es sûr.
Alors, Mehdi, qu'est-ce que t'en penses, toi, du départ d'Unai Emery?
Bah écoutez, moi ce mec-là, j'étais déjà fan de ce gars-là avant même qu'il existe à Paris, au départ du FC Séville. Je me rappelle à l'époque quand il était arrivé à Valence ou Spartak, je sais plus quoi. J'entendais déjà comme quoi ce mec-là c'était un très très grand spécialiste et conférencier au niveau de l'aspect défensif du bloc équipe. C'est un mec qui était recommandé par des grands coachs pour ça. Donc ce gars-là c'est pas un prêtre, on va dire. Il est vraiment reconnu par le corps professionnel du football mondial. Enfin bref. Et moi, quand je vois le comportement qu'il a de A à Z, de pas avoir craqué, parce que je pense que un mec comme Tourelle aurait craqué, ce qui ne veut pas dire que Tourelle est un plus grand entraîneur que ce mec-là, mais Emery, pour moi, c'est un très très grand coach au niveau du comportement. Il est très professionnel, très classe. Et ce qu'il a réussi à faire, à mes yeux, hein, moi ce que je remarque, c'est que de par son comportement, on va dire exemplaire, sur le plan disciplinaire et bref, tout ça, ce gars-là a pris plus de classe et de hauteur que le Paris Saint-Germain. Et si vous remarquez bien, avec le temps, là, le Paris Saint-Germain est en train de se ridiculiser. L'image du Paris Saint-Germain n'est plus celle qu'ils essaient de véhiculer comme étant un grand club, soi-disant une institution, hein, ça c'est le mot à la mode en France, mais en fait, ce gars-là...
Tu vas fort, Mehdi, hein.
Non, s'il te plaît.
Tu vas fort.
C'est une vérité. Si tu remarques bien, Benjamin, si tu remarques bien, le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, même les supporters n'y croient plus.
Non, mais,
ouais, mais c'est deux choses différentes.
Mehdi, je te pose une question. Oui. On parle des coachs qui ont fait son boulot, il a honoré le métier d'entraîneur, je répète troisième fois. Ouais. Mais qui a fait les recrutements l'année passée? Est-ce que tu peux me dire si Krasoviak, c'est un joueur qui va améliorer l'effectif des PSG pour le Champions?
Attendez, c'est pas, non, mais là, on
c'est pas Emery.
C'était son joueur phare à Séville.
Non, la vérité, c'est que Emery ne voulait pas Krikoviak et Krikoviak est arrivé parce que c'est le beau-fils, c'est ça? Non, bref, il est de la famille d'Olivier Létang, en fait. Grosso modo, on l'a su que c'était pour cette
année. Mais là, justement, alors pour te répondre, Farouk, parce que visiblement, bon, là, il a répondu à ma place, Benjamin, t'as apporté une
information. Jonathan, c'est tellement bête, tout ça.
Non, mais justement, c'est là que tu vois justement la grandeur du centre-entraîneur, parce que il arrive au club en ayant soi-disant trois glares derrière lui avec le FC Séville. Il aurait pu se reposer, par exemple, sur un joueur cadre du FC Séville, Krikoviak, et il s'est dit non, j'arrive dans une autre sphère. je vais jouer avec des joueurs bien plus grands que ce mec-là.
Moi, et j'ai pas cette information qu'on croit.
C'est sûr.
Après, Christian Viac, c'est un très bon joueur, mais pas joueur qui va
c'est sûr qu'Emery a jamais
voulu l'effectif des PSG pour Champions League, mais ça laisse un très bon joueur.
Après, par rapport à ce que tu disais, mais Mehdi, je trouve que tu vas un peu fort parce que le PSG ne se ridiculise pas. C'est juste une période de flottement, et je pense, je vais te dire là, le vrai mot qui convient pour qualifier le PSG sur cette saison-là et sur l'autre, c'est un peu une fin de cycle, parce qu'il y a plein de joueurs cadres qui est arrivé au début du projet. Je pense à Silva et Verratti, voilà, il va falloir, et Mota,
pour finir, Jonathan, excuse-moi, je te coupe, mais bien sûr qu'ils se ridiculisent de Paris Saint-Germain, et je te dis pas ça parce que je suis marseillais. Bien sûr qu'ils se ridiculisent, et je vais te dire, non, pas du tout. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que moi-même, Marseille se ridiculisait à une époque. Mais enfin bref, mais voilà, il se passe que, si tu remarques bien, tu finances autant dans les transferts, tu prends des joueurs que tu ne devrais pas prendre, tu ne prépares pas tu n'anticipes pas tes recrutements, t'es en fin de cycle maintenant, t'as pas été capable d'anticiper ça, tu prends un entraîneur que tu ne laisses pas gouverner, tu lui forces des recrues, et en plus, tu tapes la bise quand t'es le président à tes joueurs.
Alors,
tu te ridiculises pas.
Je vais te répondre, Mehdi. Je pense que du point de vue domestique, le PSG est le leader incontestable et incontesté de notre championnat. Ce qu'ils font en Ligue 1, c'est magnifique. Et que pour la Ligue des Champions, c'est tout à fait normal que ça prenne du temps et qu'il y ait des ratés. Cite-moi un club qui a commencé son projet et qui a gagné la Ligue des Champions tout de suite. Ça n'existe pas.
Non, il y en a pas.
Et c'est normal de faire des erreurs, donc se ridiculiser. Le mot est un petit peu fort. Après, juste pour sur un point, pour conclure, quand tu dis qu'Unai Emery d'avoir rien dit, d'être resté toujours silencieux, de pas avoir protesté, c'est la classe. Moi, je sais pas quelle est la réponse, mais c'est soit la classe, soit un manque de caractère.
Mais non, ça faisait partie de son CV. Il avait besoin de grandir. Il l'a compris, ça. Il avait besoin de se faire les dents sur un grand club et savoir gérer un gros groupe, un gros vestiaire. Il avait besoin justement de se former, d'apprendre.
Est-ce qu'il fallait peut-être pas un peu plus s'imposer alors, tu vois, du coup?
Allez, merci. Merci Mehdi d'avoir été avec nous.
Ciao, les gars.
À bientôt Mehdi. Salut. Bonne soirée à toi Mehdi.
Salut, merci.
Ciao. Tiens, une petite info qui concerne Neymar. Je vous la donne avant. Jean-Marc Furlan nous attend. C'est avec Brest, s'est imposé 4-2 à Bourg, et Brest est quatrième et pour l'instant barragiste de Ligue 2. Neymar fait son entrée dans le Robert illustré. Le footballeur brésilien figurera dans le millésime 2019, dont la sortie est prévue le 16 mai. Alors il rejoint notamment Pelé, Zidane, Messi et Maradona. Il y aura une petite photo de lui dans le Robert, sachez-le. C'était lors du match de Coupe de France entre le PSG et Rennes. C'était le 7 janvier dernier. Sauf que je vais vous lire la description de Neymar qu'il y aura dans le petit Robert, dans le Robert illustré. Neymar, donc Neymar da Silva Santos Junior, dit footballeur brésilien né en 1992 au FC Barcelone où il remporta la Ligue des Champions 2013. Il forma avec Messi et Suarez le célèbre trio d'attaque MSN. Il devint en 2017 le joueur le plus cher du monde avec son transfert au Paris Saint-Germain. Oui, sauf que il n'a pas gagné la Ligue des Champions en 2013, mais en 2015. C'est-à-dire qu'il y a une erreur dans le Robert.
Il y a une erreur. Et puis, pourquoi Neymar? Et j'espère qu'il y a Luis Gustavo, au moins, dans leur truc, hein.
Bref, dans quelques instants, nous serons avec Jean-Marc Furlan. Brest s'est imposé. Voilà, il y a de la Ligue 2. Il y avait de la Ligue 2 ce soir. Et des belles affiches. C'est sexy en Ligue 2 également. Et on retourne avec les deux très sexy. Jonathan Macardy et Farouk Alzim.
C'est toi, mon bichon.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Nicolas Villas.
Toujours accompagné de Farouk Hadžibegić et de Jonathan Macardy. Vous êtes très nombreux ce soir, encore une fois, sur l'hashtag RMC Live et au 32-16, bien entendu. Première affiche de la 35e journée de Ligue 1. Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Montpellier. Les résultats de la 36e journée de Ligue 2. On n'est pas loin des décisions finales. Victoire du Gaz, 1-0 face à Orléans. Victoire de Nancy, bien sûr. Victoire de Nancy qui a gagné 3-1 face à Tours. Le club de Vitor, bien entendu. Orléans qui s'est imposé 2-0 à Sochaux, 2-2 entre Quevilly-Rouen et Valenciennes. Le Havre a battu Ajaccio 2-0. Reims, le leader, le champion déjà, a battu le record de points sur une saison en Ligue 2 en s'imposant 3-1 face à Niort. Auxerre est allé s'imposer 2-1 face à Châteauroux. Et Bourg s'est incliné à domicile 4-2 face à Brest. Brest qui, avec ce succès, monte sur la quatrième place. Brest qui a 2 points d'avance sur Lorient, 3 points d'avance sur Clermont. On vous l'a promis, il est là.
Bravo.
Jean-Marc Furlan est en direct avec nous dans l'after. Bonsoir Jean-Marc.
Salut les gars, salut.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc.
Salut Nicolas, salut tout le monde.
Ça fait plaisir que tu sois avec nous Jean-Marc. Bravo pour cette victoire.
Salut Farouk.
Bravo. Salut Jean-Marc.
Salut Farouk. Bravo aux joueurs, Bravo aux joueurs qui restent sur une dynamique depuis 6 matchs importantes et qui jouent sur leurs valeurs surtout jusqu'au bout. Ce qui n'est pas le cas depuis toute la saison. Et là, on arrive au bon moment sur une bonne dynamique et ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir.
Alors, ça fait
chaud au cœur. Surtout pour les joueurs.
Ça fait plaisir, Jean-Marc Furlan, cette victoire de Brest qui est quatrième. Alors, c'est vrai qu'on rappelle le système des barrages. Le quatrième à la fin de la saison va jouer face au cinquième. Le vainqueur de ce match va jouer face au troisième. Et le vainqueur de ce match jouera face au pénultième de Ligue 1. Ça fait plaisir, mais ça fait pas un peu peur. Ça alourdit le calendrier encore, Jean-Marc, là.
Ouais, bon, c'est vrai que cette histoire, c'est, à mon sens, c'est tout simplement, et on peut le comprendre, hein, un peu de quelque chose à donner, un os à croquer à donner au club de Ligue 1, parce que c'est surtout pour protéger les clubs de Ligue 1, qui est que des centres. Mais, ceci dit, on va le prendre d'une façon très positive et dynamique. C'est-à-dire en se disant que nous, déjà, on voulait s'offrir, un piment à cette fin de saison. Donc, qu'on soit quatrième ou cinquième, c'est de se dire, et les supporters sont un peu impatients avec nous, se dire comment on fait ces play-offs. Après, c'est vrai que c'est un tel marathon que ça fait flipper, ça fait peur. Mais c'est l'idée, ça fait peur dans l'histoire des résultats, effectivement, mais c'est l'idée de le prendre de la façon la plus légère possible, la plus positive possible, pour s'amuser, pour voilà. Après, il faut pas se tétaniser là-dessus, parce que c'est vrai que, sincèrement, c'est... voilà, prenons de façon positive. Il y a quelque chose pour animer cette fin de saison, animer la fin mai, mais bon, ceci dit, c'est un tel marathon que tu peux se faire aucune illusion pour aller chercher la Ligue 1, c'est vraiment pour quelques deux descentes. Voilà, donc voilà. Mais nous, on le prend avec beaucoup de bonheur parce que on était entre 6e, 7e, 8e place, et puis là, on arrive comme des bombes, et bon, il reste encore donc deux rencontres, en espérant qu'elles se passent au mieux. Voilà.
Jean-Marc Furlan est en direct avec nous dans l'after. Jonathan Macardy, il y a une question pour toi, Jean-Marc.
Bonsoir, coach.
Allez,
écoutez,
moi,
la question que j'ai, je vais rebondir sur ce que vous disiez. C'est pas plutôt très excitant, cette perspective de se dire que même en finissant au-delà de la troisième place, vous avez quand même quelque chose à jouer. C'est un peu votre Coupe d'Europe à vous, ces playoffs.
Oui, déjà, c'est exactement. Alors, tout dépend dans quelle situation on est. Quand tu es dans une situation où, sincèrement, nous, déjà depuis 2 ans, il y a 22 mois, on était parti avec 8 joueurs. Déjà à la trêve, cet été, on change 50% d'effectifs et 70% d'équipe titulaire. Par rapport à cette construction-là, finir comme des bombes et offrir à nos supporters un play-off, oui, on le vit comme quelque chose de très agréable et très léger et avec beaucoup de plaisir. Hein. Voilà, on le vit tous comme ça. Par rapport au fait que, d'abord, déjà, pour finir comme des bombes, c'est très intéressant par rapport au travail.
Et pour la dynamique, ouais.
Et oui, tout à fait. Ouais. Parce que, en fait, quand tu es entraîneur, avec la victoire à 3 points, t'es obsédé à l'idée comment bien réussir ta fête, ton finish. Parce que t'as des problèmes de gestion humaine, t'as des problèmes de gestion physique, athlétique, et déjà c'est très important de bien finir le film ou la pièce de théâtre. Et nous, pour nous, la pièce de théâtre et le film, c'est 4 fins d'année match. Et c'est toujours quelque chose qui, quoi qu'il arrive, est très très positif. Alors après, il nous reste encore 2 matchs, et effectivement, c'est un peu notre petite se dire, on fait notre petite Coupe d'Europe, pour nous on le prend comme ça. D'aucuns le prendraient différemment. Nous on le prend avec beaucoup de légèreté, beaucoup de bonheur.
Jean-Marc, Farouk Hadžibegić a une question pour toi. Je sais que vous connaissez bien les deux anciens Troyens d'ailleurs.
Non. Oui, on se connaît bien. D'abord on se connaît par l'ancienneté tous les deux. Et ensuite aussi on était au comité directeur d'une EKTF ensemble pour travailler au syndicat.
Oui, syndicat des entraîneurs.
Ouais. Ouais. Non, mais je souhaite rester plutôt dans la positif, même si théoriquement, Jean-Marc, tu es obligé de gagner les deux matchs pour éviter toutes les catastrophes, tous les risques.
À mon sens,
tu as assuré déjà 4e position, il faut se préparer pour ça. J'espère que tu es d'accord avec moi, mais bravo pour ton travail, bravo à tes joueurs, à ton staff et à tout le monde au club, bravo.
Merci Farouk, merci beaucoup, mais c'est exactement ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus se tétaniser, voir, on va voir ce qui se passe à la 38e. Mais déjà, on offre à nos supporters quelque chose qui les
fait oublier.
Et le dernier match à domicile, je peux vous dire que à Brest, c'est chaud. Et donc, c'était vraiment très, très agréable et très, très kiffant d'être en bas par rapport à la ferveur qu'il y avait. C'est très agréable.
Et dis-moi, Jean-Marc, question plus personnelle, Jean-Marc Furlan, mais est-ce que tu commences déjà à réfléchir pour la saison prochaine? Alors moi, j'ai lu pas mal d'articles ces derniers temps qui disaient que c'était un peu tendu avec certains dirigeants du côté de Brest. Est-ce que tu songes déjà à la saison prochaine? Tu seras toujours en Bretagne? Tu vas bouger? Tu sais pas? T'attends de voir?
Voilà, disons que oui. Sincèrement, par rapport aux événements, je peux pas cacher d'une façon que j'étais très très contrarié de la sauce. De toute façon, on avait traité mon geste déplacé. C'est vrai que j'étais très contrarié. Je l'ai dit
à mes dirigeants, très contrariés que ce se soit pris de cette façon-là par rapport à mes 40 ans d'expérience, 20 ans d'entraîneur. Mais bon, ceci dit, moi, il me reste un an de contrat. Et donc, on va rediscuter avec le président d'une façon très calme et posée. Mais c'est vrai que ça a été un peu contrariant pour moi. Et je leur ai dit comment ça a été traité, même si j'étais en faute, hein, parce qu'il ne faut jamais perdre son sang-froid.
Mais bon, tu fais référence au match de Coupe de France, hein, Jean-Marc, hein, c'est ça?
Non, c'était un match contre Tours qu'on avait perdu à domicile.
D'accord.
Okay. Où j'avais fait un doigt d'honneur, ce qui est très honteux, ce qui est pas.
Ah, ça arrive, avantage. Jean-Marc.
Mais bon, voilà, ça arrive. Mais ceci dit, j'ai été très surpris de la réaction de mes dirigeants. Voilà, très très surpris. Et quand t'as 60 ans et que t'as 40 ans de carrière, ça reste quand même. Que ce soit très clair, ça reste. Il faut que ça soit très très clair, ça reste. Mais bon, ceci dit, c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de diriger une équipe pour les supporters et pour le public qu'il y a à Brest, pour les Finistériens. Parce que ça, c'est vraiment un peuple. Moi, j'ai fait 12 villes en France. Et c'est vraiment une région et un peuple où les gens sont vraiment très, très agréables à vivre et où il y a beaucoup de ferveur aussi pour le foot. Voilà, pour les supporters que nous avons.
Merci beaucoup, Jean-Marc.
Merci,
tu sais ce qu'on fait, Jean-Marc.
Merci à vous.
Regarde, on s'y engage. Tu vas gagner les deux prochains matchs. Tu vas taper les barrages et tu vas monter en Ligue 1. Et puis, on se retrouvera dans l'after à ce moment-là.
Allez, au plaisir.
Ouais, merci Jean-Marc, c'est gentil.
J'étais super content de vous parler parce que je tenais à vous dire que vous étiez un de mes entraîneurs préférés, vraiment, et j'aimerais bien un jour...
Il dit ça à tout le monde.
Non, sans déconner, j'aimerais vraiment un jour pouvoir venir, enfin, avoir l'opportunité de venir voir travailler. Je trouve que le
tout ce
que
vous avez fait, c'est admirable. En fait, il veut juste gratter une nuit chez toi, gratos, Jean-Marc.
Non.
Ah non, c'est un super entraîneur. C'est mon invité, avec grand plaisir.
Bon, il m'a jamais invité, Jean-Marc, moi, sans déconner, depuis le temps qu'on se connaît.
Faut savoir partager.
Sans déconner, Jean-Marc.
Mais tu le sais, Nicolas. Mais tu le sais que tu peux venir à Cannes.
Merci, Jean-Marc. Bonne soirée, en tout cas.
Plaisir,
bravo.
Salut.
Alors, qui est un mec absolument passionnant, ouais, Jean-Marc Furlan. Voilà, au-delà du jeu, c'est vrai qu'on parle souvent de ses jeux, de ses équipes.
Il fait souvent bien jouer ses équipes.
Non, mais au-delà de ça, c'est quelqu'un de très intéressant également. Tiens, je vous donne également, j'en profite pour vous donner les nommés des trophées UNFP de Ligue 2. Pour le meilleur entraîneur, il n'y a pas Jean-Marc Furlan, mais il y a Bernard Blacard de Nîmes. Il y a Pascal Gassien de Clermont. Il y a David Guillon, qui est champion avec Reims. Il y a Olivier Pantaloni du côté d'Ajaccio. Je vous donne une petite info. Pantaloni fait partie des Blazes qui sont annoncés du côté de Toulouse en vue de la saison prochaine.
Ouais, j'ai entendu parler de ça.
Des quatre qui sont proposés, je pense, vu la continuité depuis l'année passée et cette année, c'est Nîmes. Donc, Blacard.
Ah, tu mettrais pas Guillon? Il est en train de péter tous les records, Guillon, là, cette saison.
Oui, mais j'ai observé un petit peu Nîmes.
C'est vrai que ce que fait Blacard, c'est fort aussi, mais.
Voilà, c'est dur. Le choix, il est difficile, mais voilà. S'il faut choisir un, c'est Blacard.
Non, t'avais dit que tu t'en foutais, toi.
Mais non, mais c'est trop fait.
Ok. Alors, meilleur joueur de Ligue 2, Rachid Alioui avec Nîmes. Oumout Bozok, bien sûr, un enfant, un bébé de l'After, qui signera à Lyon grâce à l'After, d'ailleurs également. Romain Philippotto d'Auxerre et Diogo Rigonato, alors qu'il pourrait signer du côté de Saint-Etienne, le joueur du Stade de Reims. T'as un préféré, toi, ou pas?
Si je peux choisir trois, je choisis trois, mais allez, je reste avec Diego.
Rigonato?
Ouais.
Il y en a certains qui sont pas. On aurait pu mettre Ferrat, le meilleur passeur de Ligue 2, par exemple, également. Il y a Siebatcheux qui fait une belle saison aussi.
Diego,
avec,
il était décisif aussi, comme deux garçons de Nîmes.
C'est un bon joueur.
Maintenant, comme ils sont assurés déjà première place, et puis Diego, il était décisif pas mal des fois, je dis de Diego.
Tiens, faites vos votes, les gars, pour les trophées UNFP également sur le hashtag RMC Live. Trophées, les nommés pour le meilleur joueur de Ligue 1. Il y a Neymar, Mbappé, Cavani, trois Parisiens, plus Thauvin.
Ça me laisse sans voix. Écoute, je te conseille d'écouter la Minute Bribois dans l'émission de Jean-Michel Larquet. Tu verras pourquoi ces trophées sont totalement biaisés.
Ok. Je vais te conquérir par Hugues. Je peux lui demander son avis, on va gagner du temps.
Aucun de ces quatre.
C'est vrai, t'en as mis qui, toi, alors?
Luis Gustavo.
Mais il a fait une super saison, donc tu n'as pas tort.
Mais qui a réalisé la meilleure saison selon toi?
Cavani.
Il n'y a pas un qui a survolé tout le monde.
Si, Cavani.
Cavani.
Ouais, je sais même pas, tu vois.
Il a battu tous les records. Ouais, Cavani.
C'est un putain de joueur quand même, attends.
C'est extraordinaire.
La saison qu'il fait en plus avec l'adversité interne et tout, non, il faut le récompenser.
Nommé au trophée pour le meilleur entraîneur de l'année de Ligue 1, Olivier Dalloglio avec Dijon, Unai Emery avec le Paris Saint-Germain, on en parlait il y a quelques instants, Rudy Garcia avec Marseille et Leonardo Jardim avec Monaco. Toi, coach, t'as une préférence?
Jardim ou coach
Farouk?
Jardim ou Olivier? avec un petit peu moins des mots.
Tu mets ni Garcia ni Emery, les deux ils font une saison de dingue. Enfin surtout Garcia. Oui,
il faut compter aussi les moyennes. Attends, pour moi.
Ouais, c'est vrai.
Ouais, franchement,
Dalloglio c'est beau ce qu'il
après
fait.
Après avoir, oui, avoir c'est beaucoup tapé sur le.
Dalloglio, c'est Dijon, toi.
Oui.
Légende à Dijon.
Vu les moyennes, c'est Olivier au Jardim.
Après tout ce que je lui ai cassé comme sucre sur le dos, Rudy Garcia, quoi. Je retourne ma veste. Il m'a, enfin, il a m'a bluffé sur
tout
ce qu'il a changé.
Ce que je dis.
Non. Non.
Finalement, que c'est pas un bon mec. Tu l'avais dit.
Arrêtez.
On va discuter tout à l'heure.
Jérôme Thomas me dit c'est bizarre, il n'y a pas Bielsa. Voilà. Vous allez vous expliquer avec lui sur Twitter, bien entendu. Trophée pour du meilleur gardien de Ligue 1 de la saison. Areola avec le Paris Saint-Germain, Benjamin Lecomte avec Montpellier, Anthony Lopez avec Lyon et Steve Mandanda avec Marseille.
Mandanda.
Ouais, il est quand même blessé depuis un moment. Là, c'est Pelé qui tient le truc en ce moment.
Tu peux répéter quatre candidats, s'il te plaît.
Areola, Lecomte de Montpellier, Anthony Lopez ou Mandanda.
Areola.
Statistiquement, c'est le meilleur, Areola, mais ouais. Ils ont rien à la meilleure défense. Et tiens, et le meilleur français à l'étranger sont nommés Karim Benzema, Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Samuel Umtiti.
C'est facile, là.
Grisou ?
Ah oui.
Ouais. T'es d'accord
Non. Umtiti.
Tu mets qui fort ?
Umtiti.
Ah ouais ? Umtiti. Avec le Barça ?
Parce qu'il s'imposait dans un effectif qui est exceptionnel. Il était obligé de faire sa place. Donc aujourd'hui, il est indiscutable. Et en plus, Barça, il souhaite qu'il reste chez eux.
C'est vrai.
Tiens, info qui nous vient de Marseille. On a J+1 après la victoire en demi-finale de Ligue Europa face à Salzbourg. Info de Florent Germain. À la fin du match, hein, dans le stade Vélodrome qui était bouillant, Adil Rami a le réflexe de réunir tous les joueurs dans le rond central, alors que les supporters étaient restés dans le stade. Voilà le message de l'ancien joueur de Séville, qui a remporté d'ailleurs l'Europa League avec Séville en 2016. A dit, rien n'est fait. On n'a pas le droit de se croire en finale. On reste humble et concentré. On n'y est pas encore. Voilà, il n'y avait pas d'euphorie, on va dire. En revanche, il y en a qui était très content, qui était aux anges. C'était Franck McCourt, qui visiblement adorait les tifos. Et il y en a un qui est très en colère ce matin. Du côté de Marseille, c'est Jacques-Henri Hérault. Alors, interview dans La Provence et dans L'Équipe, je vous lis quelques extraits. Alors, il est furieux après la décision de la commission de discipline mardi qui a infligé 3 matchs de suspension à Adil Rami et au Lyonnais Anthony Lopez, justement suite aux incidents du match entre les deux équipes. Le président de l'OM a affirmé donc dans La Provence et L'Équipe, je ne suis pas du tout surpris par son côté provocateur. Provocation et Jean-Michel Aulas, c'est un pléonasme. Voilà, il s'adresse au président de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, ce délai d'un an et demi me permet de dire un certain nombre de conclusions, de tirer un certain nombre de conclusions de ce que j'ai pu entendre, de ce dont j'ai été témoin, et peut-être de changer d'approche. Là, c'est de l'ensemble du football français, de ses bases, de ses fonctions dont il s'agit. Je veux croire encore que la LFP et certaines des commissions qui la composent sont indépendantes. Ce que je note en tout cas, c'est que les membres de la commission de discipline se lèvent plus prestement pour saluer le président de Lyon que celui de l'Olympique de Marseille quand il rentre dans la pièce. Le privilège de l'âge, je présume, déclare Jacques-Henri Hérault, ouais. Qui déclare encore, je pense qu'il faut maintenant franchir un cap et réformer de façon profonde un certain nombre de modes de fonctionnement propres à la Ligue de football professionnel. Je rendrai désormais coup pour coup, dit-il, en faisant référence à Jean-Michel Aulas.
Franchement, bon, écoute, qu'il soit énervé par la décision de la Ligue, ça peut se comprendre. Après, je trouve que c'est un petit peu inconscient ce qu'il fait, parce que si l'Olympique de Marseille a la chance de se qualifier, enfin, le bonheur de se qualifier pour la finale de l'Europa League, ça va se jouer à Lyon. Et je pense qu'avec vis-à-vis de tes supporters, faut pas mettre de l'huile sur le feu.
Moi, c'est plutôt des volontés à dire que j'apprécie beaucoup le travail des deux clubs. De Jean-Michel Aulas qui fait peut-être ses meilleurs dirigeants en France, meilleur président, parce qu'il est aussi quelque chose d'exceptionnel.
Ah oui.
Et je pense, président de Marseille, depuis qu'il est là, il a que des choses positives qui est fait. Son équipe avec Rudy Garcia, elle est pratiquement au final. Donc, à ce niveau-là, des responsabilités, on n'a pas besoin de ce type de déclarations et puis des guerres. Je préfère un petit peu plus de recul et un petit peu plus de souplesse.
C'est pas si bête, tu sais pourquoi? Parce que Jean-Michel Aulas, je pense que ça reste, c'est objectivement, c'est le meilleur, c'est le plus grand président de l'histoire du football français. Mais avec toutes ces petits enfantillages, ces tweets, il est en train de gâcher sa réputation. Et on a tendance à l'oublier, tout ce qu'il a fait.
Farouk, t'as kiffé ou pas?
J'ai kiffé et j'ai décidé
que je vais l'assemblée.
Non. Je reste jusqu'au prochaine émission, je bouge pas d'ici.
Allez, non, vas-y. Bonne nuit.
Par contre, je vais tout seul, mon pote.
T'as dit, il n'y a pas Jean-Jacques Bourdin demain matin. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont aidé à préparer cette émission. Vous avez kiffé, Farouk? Hashtag RMC Live, venez déclarer votre amour. Merci Jonathan Macardy. Merci Farouk, tu reviens quand tu veux. T'es ici chez toi, Farouk.
Merci.
Voilà, il n'y aura pas le temps de parler. Des adieux envers André Sinesta. Merci, à demain, bisous. Ciao, ciao.
C'était l'Afterfoot sur RMC avec l'école Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le super football show, l'Afterfoot.